Eh bien voilà, c'est Black and Blue. Bienvenue à tous, chers visiteurs du soir. Pierre Monteil et Benjamin Thuot ont réglé la prise de son de cette émission mise en page, il va de soi, par Françoise Cordet, sa réalisatrice inamovible, du moins on l'espère. Ce soir, Georges Pakzinski, survolant l'histoire de la batterie dans le jazz, évoquera la vie captivante et aventureuse des ballets.
Alors là, nous allons parler des ballets, n'est-ce pas? Mais nous avons fait ensemble le chemin suivant. Il y avait d'abord... C'est la baguette qui frappe, on est là. J'ai joué musclé, un peu exprès, vous voyez. On a donc fait un travail un peu, je vous vois sourire, un travail un peu impératif, quoi. Alors, on va aller dans cette direction-là maintenant. J'enlève le timbre de la caisse claire. C'était déjà beaucoup moins agressif, n'est-ce pas, Alain ? Beaucoup plus délicat. Et que diriez-vous de ceci ? Suspension du temps, oui, avec les doigts.
Oui, il fallait le préciser, hein, parce que vous savez qu'on a des auditeurs qui n'ont pas la télévision, donc ils n'ont absolument pas rendu compte que vous jouiez avec vos mains.
Oui, alors ça donne quand je prends évidemment le ballet maintenant, alors donc je fais le flux et le reflux. Je fais rentrer la main droite. Imaginez un batteur, Alain, qui commence un concert comme ça, devant 2000 personnes. Vous imaginez ?
Moi, j'en connais au moins.
Oui, je crois que nous parlons du même. C'est évidemment Connie Kay, oui, du Modern Jazz Quartet. Et ça, il faut d'abord ne pas avoir les mains moites, avoir un mental à toute épreuve et une tranquillité intérieure absolue. Alors, il y a dans les ballets, vous voyez, il y a une chose tout à fait capitale par rapport aux baguettes et aux maillotches, c'est que là, nous sommes en contact permanent avec l'instrument. Je sais que vous aimez beaucoup les ballets, Alain. Il y a une sorte de profondeur dans le toucher, parce qu'en étant en contact en permanence avec l'instrument, on est, si vous voulez, on est collé à la terre, à la musique. On est dans cette seule situation que les baguettes et les maillotches ne nous donnent pas. Et que les instrumentistes, bon, ils sont en contact avec les cordes, trompettistes avec l'embouchure, tout ça. Mais nous, c'est la seule solution que nous avons d'être complètement en osmose avec l'instrument. J'allais dire avec un aspect charnel, un aspect sensuel, j'allais dire presque sexuel. A drum is a woman, n'est-ce pas ? Et en fait, cet aspect, disons, où on palpe la matière, c'est quelque chose d'irremplaçable pour un batteur. Alors, vous savez qu'il y a donc différentes figures. Je ne vais pas en faire simplement. Il y a des balayements du genre où on balaye. Et puis après, on fait des balais, on fait rentrer la main droite, la main gauche. Puis on fait des petits cercles, des grands cercles, dans un tempo plus lent.
Oui, il y a des huit horizontaux aussi.
Voilà,
enfin, il y a beaucoup
là,
de choses.
Je fais un truc. Voilà, là, je prends temps. Voilà, il a un travail latéral. Enfin, il a toute une série de figures. Et vous savez, Alain, quand vous m'avez demandé de faire l'histoire de la batterie, je me suis dit, bon, on va faire les ballets, bien sûr. Mais je vais être dans une situation vraiment extrêmement pénible. Pourquoi ? Pourquoi pénible, Alain ? Parce que j'ai fait la liste des gens dont nous n'allons pas parler. On va parler de deux, trois batteurs. Mais il y a quand même des gens qui sont des grands maîtres des ballets. Joe Jones, Sidney Catlett, celui que vous adorez, Denzil Best, que Bill Evans regrettait de ne pas avoir joué avec Denzil Best. Je ne me trompe pas, n'est-ce
Absolument,
pas ?
Absolument, oui, tout à fait.
Buddy Rich, qui joue magnifiquement les ballets. Gordon Spex Powell, voilà, un batteur complètement oublié, qui a joué magnifiquement les ballets avec Errol Garner. J'aurais pu choisir. Quelle honte, je ne l'ai pas fait. J'étais déchiré, Alain. Je ne savais pas quoi faire. Je lui dis, je vais quand même le passer. Et puis après, j'ai changé. Écoutez, pour préparer l'émission, j'étais sans arrêt. Je regarde Alain. Je vais choisir ça. Le lendemain, non, je ne vais pas prendre ça. Le lendemain, je changeais encore d'avis. Ce matin même, j'ai encore changé d'avis. Et il y avait évidemment Kenny Clarke sur l'autoroute, dans le disque Ascenseur pour l'échafaud, la poursuite, le travail de ballet extraordinaire de Kenny. Mais Kenny, on l'avait écouté dans Now is the Time. Il y a Roy Haynes qui joue magnifiquement des ballets. Philly Joe Jones, le début de Billy Boy. Fallait absolument le sortir. Mais j'ai fait encore autrement. C'est pas Billy Boy magnifique, hein. En trio avec Red Garland et Philly
Max
Joe
Holmes,
Jones.
Max qui a commencé pendant des années par ne jouer que des, ballets avant de se mettre aux baguettes.
Vous avez raison, Max. Dave Bellet, je sais que vous l'adorez, Dave Bellet. Donald Bellet, les deux Bellet. Ne parlons pas de Vernel, Vernel Fournier, qui est un maître des ballets. Et nous avons entendu les marches-tambours, Vernel jouait la marche-tambour. Et Tippen avec Oscar Peterson, magnifique. Joe Morello, qu'on oublie aussi.
Ouais. Et Shelley Mann, on avait pas oublié.
Alors j'y viens, Alain. Louis Hayes, laissez-moi finir. Louis Hayes, Shelley Mann, nous y voilà. Et vous voyez, je hausse le ton en même temps. Parce que je vois que c'était presque une injure si je ne le citais pas, vous voyez. Puis Chico Hamilton, bien entendu.
Ah oui.
Chico Hamilton. Bon,
pendant
alors,
toute une époque, on disait que c'était lui le plus grand de tous.
Alors voilà, alors écoutez, donc me voilà paré devant toutes les critiques que les musiciens vont peut-être m'envoyer ou dire « Oh là là, t'as oublié celui-là », parce que j'en ai d'autres.
En fait, vous avez oublié un de ceux que vous préférez vous-même.
Ah bon ?
C'est terrible.
C'est terrible. Ah, alors,
oui.
Alors on va voir, peut-être qu'il va en faire partie dans ce que nous allons écouter, n'est-ce pas ? Alors, nous allons écouter, si vous voulez bien, avec cette technique de ballet, ce travail de ballet magnifique, j'allais presque dire le mot, l'intimité de la musique. L'intimité de la musique.
Il y a quand même une chose qui me paraît intéressante à dire sur l'histoire de ces instruments, c'est que l'invention des ballets vient de la prise en compte d'une technique d'où le balayage était exclu, puisque les historiens s'entendent à dire que le début, et d'ailleurs l'intéressé lui-même, j'ai Roll Morton qui prétend avoir introduit ça dans le jazz, et après tout c'est peut-être vrai, tout le monde s'accorde à dire maintenant que les premiers ballets c'était tout simplement des tapettes à mouches.
Absolument.
Et avec des tapettes à mouches, on arrive à faire beaucoup moins de bruit qu'avec des baguettes, mais on n'arrive pas à balayer.
En effet, et j'aurais dû le dire, vous avez raison de le souligner, j'avais pensé passer un enregistrement de Jane Krupa, qui joue avec Benny Goodman, mais il balaye, mais pas beaucoup. Il tape encore, comme une technique de baguette, quoi. On le voit un petit peu balayer à des endroits, mais c'est peu fait. Et progressivement, on est arrivé de la frappe au balayement, donc à l'intimité. Donc je vous propose, Alain, cette intimité irremplaçable, c'est-à-dire cette espèce de... C'est tout de suite, vous pénétrez dans le son.
Cela dit, pardon, mais il reste vraiment aux historiens à nous expliquer comment on est passé de la tapette à mouche à quelque chose qui est une brosse.
Alors.
Je n'ai jamais lu nulle part, moi. Et vous qui avez fait plus de recherches que moi sur la question, non plus.
Non plus, non, absolument, non plus. Alors, écoutons cette merveille, parce que nous sommes, Alain, le 27 mai 1960, une précision. C'est un disque, une bande que John Lewis avait retrouvée quand le batteur Connie Kane ne vivait plus. Il avait retrouvé, et quand il avait entendu la bande, il a dit « c'est le meilleur disque du Modern Jazz Quartet » parce que pour l'une des rares fois, les quatre musiciens sont au maximum de leurs possibilités. C'est-à-dire, parfois, il y en a deux qui jouent un peu, pas moins bien, mais qui sont moins dans le coup. Parfois, c'est trois qui sont dans le coup, il y a un qui l'est un peu moins. Parfois, c'est deux, un, ou enfin bref. Et là, merveille, oh merveille, John Lewis dit « Dedicated to Connie », dédié à Connie qui nous a quittés. Et il a trouvé que là, il y avait un équilibre quasiment parfait. Et je vous propose cette merveille qui s'appelle « I Remember Clifford ». C'est la composition de Benny Golson, 27 mai 1960, à Ljubljana, en Slovénie.
Sur le thème Benny Golsonien de I Remember Clifford, que le Modern Jazz Quartet avait inscrit à son répertoire quelques temps, pas tellement plus tôt. C'était donc le Modern Jazz Quartet à Ljubljana en 1960. Et il y avait là, autour du directeur musical et pianiste de ce petit ensemble, John Lewis, Mill Jackson au vibraphone, Percy Heath à la contrebasse et Konike à la batterie. Alors moi, ce qui me frappe, et oui, je crois qu'on ne peut pas, même de très loin, avoir touché à la batterie sans avoir très présent cela en soi. Oui. Ce qui me frappe, c'est à quel point il faut de courage pour jouer comme ça, pour affronter la simplicité extrême. C'est presque encore pire que d'affronter le silence.
C'est tout à fait vrai.
Parce qu'au moins le silence, on peut ne rien faire. Mais là, il faut faire quelque chose quand même.
Il faut oser jouer comme ça. Et là, ce qui est extraordinaire dans ce qu'on vient d'entendre, c'est un équilibre dans l'intention musicale. Il n'y a pas un musicien qui n'écoute pas les trois autres. Et donc, il y a une attention absolue, une concentration et en même temps un relâcher magnifique pour que la musique puisse se dérouler lentement, lentement, avec chaque chose à sa place, vous voyez. Et les ballets, il y a ça aussi. Quand on joue vraiment, on joue pas. Voilà, on prend le temps d'installer les choses. Et là encore, là, je joue un peu vite. Et on prend le temps.
Puis malgré tout, des petites trouvailles. Par exemple, il ne joue pas le cercle complet au début de l'interprétation.
Voilà, oui. Puis après, à un endroit, il connaît la grille magnifiquement. Donc après, à un endroit, hop, il le voyait en train de balayer. Alors voilà, c'est là-dessus que nous commençons, dans cette espèce de délicatesse, qui est très éloigné de tout ce que du tambour militaire que nous avons vu. Et donc là, il y a un affinement du musicien. Le musicien, j'aurais pu citer aussi un batteur que je n'ai pas cité, c'est Daniel Humer, bien entendu, qui est un magnifique joueur de ballet, un musicien tout à fait extraordinaire. Mais vous voyez, c'est cette finesse que l'on a, où à ce moment-là, on voit la profondeur de musicien. Parce qu'il n'y a plus l'argument du volume sonore. Bien que, par exemple, Elvin Jones, quand il joue le ballet, il joue parfois d'une façon absolument formidable, presque comme des baguettes. Il ne faut pas croire qu'il y a un côté, vous savez, je n'y touche à peine. Pas du tout. Il faut d'ailleurs une énergie formidable pour jouer ça. Alors, par exemple, je vous propose le thème...
Cela dit, il est capable de jouer au ballet un très simple Shabada. Il le fait notamment dans un disque en trio avec Earlines.
Ah, voilà, absolument. Alors, je vous propose, par exemple, un thème qui s'appelle Israël, en l'accompagnant d'une façon très traditionnelle, très très simple. Top pas des dons, pas pas des dons, des dons, pas de dépens, pas des dons, 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 pas des dons. Alors voilà, c'est très très simple. Je veux dire, je balaye, voilà, je place le tempo, je chante en même temps, voilà, et d'une façon très souple. Avec une intervention, une syncope, voilà. Alors, ça, c'est une première chose. Le ballet donne cette chose qu'il faut savoir faire, chanter le thème à voix haute et jouer le tempo. Mais il y a autre chose. Et dans l'interprétation que je vais vous proposer, je vais d'abord vous montrer ça. Je vais me mettre au piano. Et là, simplement, il y a une chose, Alain. C'est le problème de la couleur. Parce que je me place du point de vue du batteur, vous comprenez ? Lui, là, avec la mélodie que je viens de jouer... Sol, la, mi, ré, la, sol, fa, mi, ré, do, la. Bon, il entend la mélodie, mais le batteur qu'on va écouter est un percussionniste, il est pianiste, il est vibraphoniste. Il connaît toute la musique, donc il connaît pas seulement la mélodie que je viens de chanter, il travaille les accords. Et les accords, il y a une couleur particulière sur ce thème. Ré mineur, basse, ré. Alors ça donne ça. Deuxième mesure. Avec un bémol ici. On remonte, il y a une dramaturgie. Et puis là, avec un mi bémol, qui est la neuvième, et on arrive ici, une autre dramaturgie qui prépare, puis une autre, et puis encore une autre, et là, on a tout à fait incroyable pour aller vers, voilà un accord complètement inattendu, parce que c'est un blues mineur, un 4-5 qui n'est pas respecté ici, on a tout à coup quelque chose de totalement inhabituel avec cet accord. Et après, voilà un autre qui suit après. Et maintenant, on arrive à la dernière ligne. Et celui-là, le là, et puis après, tranquillement. Alors, lui, quand il joue, parce que vous avez deviné, Alain, qu'il s'agit de Larry Bunker, évidemment. Parce que là, nous allons d'abord entendre la version... classique, la version, celle qui est extraordinaire déjà, ou le balayement de Paul Motian, qu'on va entendre avec Scott Lafaro. Paul Motian, il connaît tout aussi, pareil. Il entend tout. Donc il va faire un trio mythique que nous connaissons, et il entend non seulement la mélodie, bien entendu, mais les accords. Alors, c'est l'aspect mélodique de la chose que je vous propose. Alors, écoutons cette version d'Israël par Scott Lafaro et Paul Motian, enregistrée à l'un, imaginez-vous, vous le savez, 2 février 61. Mais j'ai regardé, et je ne le savais pas, j'ai regardé dans le disque, ils ont enregistré le même jour, 7 plages en un jour, 7 chefs-d'œuvre. Est-ce que c'est possible ? 7 chefs-d'œuvre, moi j'en reviens pas. Et voilà cette version du 2 février 61, Israël, Scott Lafaro, Paul Motian, Bill Evans.
Thank you.
Nous venons d'entendre donc Bill Evans Trio avec Scott Lafaro, Paul Mossian, le 2 février 61 avec Bill Evans sur le morceau qui s'appelle Israël. Et Alain, bien entendu, si vous avez entendu comment il joue par rapport à Connie Kay, il y a donc une grande différence. D'ailleurs, Connie installait un tapis, tandis que là, il y a déjà beaucoup de choses qui sont où le batteur devient progressivement soliste. Et j'aurais pu choisir Autumn Leaves, le célèbre Autumn Leaves, ou les trois musiciens, ou Motian, chorus en même temps que Scott Lafaro. Mais je voulais choisir Israël pour une raison précise, c'est que nous allons entendre Larry Munker jouer.
Mais non seulement il est soliste, Motian, mais on a très souvent le sentiment qu'il cale sa partie sur un arrangement qu'il se fait dans sa tête.
Dans sa tête. Mais le batteur est quelqu'un qui fait un arrangement spontané. Le musicien, en général de jazz, il fait une construction spontanée. C'est ça qui est toute la grandeur de cette musique par rapport à la musique écrite. C'est que c'est une composition. Ce n'est pas quelque chose comme ça. C'est une construction. C'est un édifice. Et le problème, c'est que cet édifice ne soit pas bancal et monte progressivement devant le public. Vous voyez, c'est ça. Or, notre version de « J'ai chanté tout à l'heure Israël » d'une façon très classique, en l'accompagnant comme ça, mais regardez ce que ça donne quand on fait « Un papadidoum, papadigalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégalégal Autrement dit, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai carrément chorussé sur Israël. Mais imaginez que ça, c'est carrément un accompagnement. Alors ça devient extraordinaire. C'est plus du tout la même perspective. Alors donc, maintenant, je vous propose d'écouter, évidemment, le Chuck Israel, Larry Bunker. Deux mots sur Larry Bunker. Parce que là, il faut quand même, il faut rendre à César ce qui est à César. Moi, vous savez, je suis, peut-être avec le temps passant, je deviens agressif. Non, parce que je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Parce que voilà, un homme, pianiste, percussionniste, le plus sous-estimé de toute sa génération. Et il expliquait à Hollywood, je ne suis pas considéré comme un batteur. En 65, il disait ça. Oui, quand on cherche un batteur, on prend Shelly Manne, Alvin Stoller, Jack Sperling. Je travaille surtout comme percussionniste avec tout ce que cela comporte. Écoutez Alain, entre parenthèses, il ajoute, bruit, son divers, triangle, et il ajoute, le comble, sifflait même. Alors vous voyez, avec une tristesse incroyable. Et que pourtant Chuck Israel raconte que dire que ce fut une révélation de jouer pour la première fois avec Larry Bunker n'est qu'une partie de la vérité. Ce fut en fait une joie, une source d'inspiration aussi bien pour Bill que pour moi. Et le contrebassiste ajoute aussitôt, Larry, qui est un musicien aussi complet que ceux que j'ai rencontrés jusqu'à présent, manifestait une attention que je trouvais inhabituelle, tenez-vous bien Alain, inhabituelle pour ne pas dire inexistante chez les batteurs. Il connaissait tout notre répertoire et sentait avec un instinct infaillible tous les changements qui pouvaient intervenir dans les dynamics de notre musique. Il jouait pour la musique, gommant toute manifestation exhibitionniste afin de favoriser l'unité et l'osmose, ajoutant sa personnalité au groupe avec un souci nourri d'affection, afin de ne pas entraver la liberté que nous avions, Bill et moi, en duo. Alors,
cela dit, Bunker a été révélé à lui-même par cette musique, hein, ouais. Parce qu'avant de jouer avec Bill Evans et d'enregistrer avec Bill Evans, ouais. Dans aucun autre de ses enregistrements, on ne l'entend s'exprimer avec une telle liberté, une telle invention.
C'est incroyable.
Parce qu'avec Bill Evans, on entend vraiment un batteur qui joue comme personne avant lui, dans le jeu au ballet. Il y en a deux comme ça dans l'histoire, Elvin, que vous citiez tout à l'heure, ouais. Et lui.
Alors, ce qui est incroyable, c'est quand il jouait chez Jerry Mulligan, il faisait un truc très pépère, un truc vraiment académique, où absolument on ne pouvait pas le différencier d'un autre batteur. Et puis tout à coup, formidable, un truc incroyable, quoi. Et une puissance, une conviction extraordinaire. Alors je vous propose donc le Chuck Israel, Larry Bunker avec Bill, évidemment sur Israël. Et nous sommes donc en janvier 65. Alors écoutons donc ce morceau qui est une pure merveille où Larry Bunker est au sommet de la musique. Thank you. magnifique Alain, n'est-ce pas ? Extraordinaire ! Quel musicien incroyable ! Alors tout à l'heure, lorsque je faisais ça, n'est-ce pas, dans ce registre-là, et après je plaçais la basse, n'est-ce pas ? Il y a une dramaturgie là, et puis après ça, et encore ça, et puis après, lorsqu'on arrive ici, c'est terrible, avec le mi bémol. Donc, Larry Bunker, quand il chorus, en lui, il entend toutes les progressions harmoniques. Donc, non seulement il connaît la mélodie, mais dans ce qu'on venait d'entendre, il y a toute la progression du... Et ça fait donc ceci. 1, 2, 3, 4... Fa. Et fa, si, la, ré. Alors, là-dessus, ré, fa, si, la, ré. Lui, il entend tous les accords. Vous comprenez ? Il joue toutes les mélodies, le petit homme, la caisse claire, cymbale, tout. Et il entend, lui, le défilé harmonique et la mélodie. Alors, je vais demander à notre réalisatrice, à Françoise, de bien vouloir repasser juste la fin. Je jouais les fondamentales des accords. Et là, vous entendrez peut-être la rébunker d'une certaine manière tout à fait différente. C'est pas une merveille, hein. C'est formidable. Vous entendez ça ? Vous entendez ça ? Mais c'est monstrueux, complètement. Moi, je suis enthousiaste quand je vois ça. J'en peux plus, quoi. Vous voyez, je me dis, mais c'est un homme orchestre. Et ce qui est terrible, Alain, peut-être, c'est que c'est un homme orchestre dont les gens qui entendent la batterie ne se rendent pas compte que c'est un homme orchestre extraordinaire. Il a tout l'orchestre symphonique en lui. Il a tout. Il a la couleur, le rythme, les pieds qui sont en mouvement, la charleston qui contrecarre, la mélodie, les harmonies qui défilent. Et le tout, Alain, le tout, il faut être totalement relâché. C'est quand même un grand mystère. Totalement imprégné de la musique, énergique, folle, et en même temps, extraordinairement relâché, quoi.
Alors moi qui vous ai écouté attentivement, oui. Je vais vous dire quelque chose qui vous surprendra peut-être. Vous venez là de finir une émission sur l'histoire de la batterie et j'espère que ceux qui nous écoutent l'auront apprécié. Et je pense qu'à votre insu, vous en avez fait une deuxième. Ah. Une deuxième cachée dans la première. En effet, à travers les exemples que vous avez choisis, et notamment grâce à l'opposition entre d'une part Koniké et d'autre part Paul Motian et...
Larry Bunker,
oui. Vous avez démontré à quel point l'histoire de la batterie a été celle d'un mouvement qui, pendant longtemps, et en fait jusqu'à Denzil Bess que nous avons cité, oui. Est allé vers le plus de continuité, le plus de legato possible. En effet. Vous savez, vous êtes batteur, donc vous savez que le grand problème des batteurs, ça a été de créer du continu sur un instrument qui n'était pas fait pour ça.
Oui.
D'où le roulement buzz,
oui.
D'où la cymbale chinoise cloutée,
absolument.
D'où les balais.
Absolument.
Et puis, donc, les balais évoluent. La continuité, elle est dans le fameux morceau de Miles Davis sur l'autoroute avec ouais. Kenny Clarke. On est donc là en 56-57,
c'est
57,
ça, oui.
Je crois. Et puis, va venir Elvin, vont venir les deux musiciens partenaires de Bill Evans auxquels vous venez de vous intéresser. Et là, au contraire, dans l'accompagnement, je ne parle plus là du solo,
ouais,
mais
ouais.
de l'accompagnement,
ouais.
le jeu du batteur essaie de se faire le plus discontinu, avec les lignes
alors,
les plus brisées
alors, voilà,
possibles.
Alors,
et ce double mouvement apparaît très très bien à travers les exemples que vous avez choisis.
Merci beaucoup Alain, c'est ce que je voulais montrer, et c'est qu'en fait cette discontinuité, c'est un des grands paradoxes. La discontinuité doit paraître continue, en fait. C'est une chose extraordinaire. Ça vient d'ailleurs du mot rythme lui-même. L'étymologie du mot rythme, c'est rhythmus. Pour rhythmus, la racine latine, réo pour la racine grecque, et après shri pour la racine indienne, où il y a la notion de couler, la notion de couler. Et donc, la notion aquatique du déroulement régulier et des branches d'arbres qui viennent couper l'irrégularité et les pierres qui viennent couper cette irrégularité. C'est extraordinaire. Donc, le batteur, il est là dans cette situation de, avec des cymbales, des pots, des choses qui sont avec un mètre à franchir à chaque fois, des choses incroyables. Il doit faire quelque chose de soudé, j'allais dire, comme une sculpture. C'est une sculpture.
Je crois qu'il y a deux façons de jouer mélodiquement de la batterie. Une est de jouer sur les timbres, les hauteurs de son. C'est ce qu'on fait si magnifiquement, chacun à leur manière, Max Roach et Shelly Manne.
Oui.
Et puis une autre est d'introduire le lyrisme dans l'expression elle-même,
tout à fait.
Dans la pulsation. Et ça, c'est ce que fait magnifiquement Larry Bunker et ce que fait aussi, à sa manière, magnifiquement Elvin.
Alors maintenant, nous voilà en janvier 83, là. On a franchi bon nombre d'années et juste le début. Vous aviez passé le trompettiste au début, All the Things You Are. Alors je vous propose, nous ne nous sommes pas concertés, All the Things You Are, Jack DeJohnette, Keith Jarrett, nous sommes là devant un concert sublime, All the Things You Are, je vous en prie, écoutons ça. Alain, nous étions en janvier 83, extraordinaire trio. Vous avez entendu la manière dont Jack DeJohnette joue. C'est une synthèse de tout ce que nous avons entendu. C'est des tempos rapides, très musclés, tout ça. Mais finalement, je voudrais que nous revenions à notre coniquet, mais notre coniquet moderne. Alain, je vous propose un morceau qui est « Time Passes On ». Et le temps qui passe, ça me fait toujours penser à la peinture de Georges de Latour. Vous avez une bougie, vous avez une ombre, vous avez... Vous avez les vanités des peintures du XVIIe siècle. C'est curieux, ça me fait penser à ça, où le temps prend le temps de vivre, où il y a les symboles du temps, de la brièveté de la vie, la mort qui est toujours présente. Alors vous avez sur ces tableaux, vous avez le caractère transitoire de la vie qui est toujours figuré. Alors vous avez un sablier, vous avez un instrument de musique, vous avez une chandelle qui vient de s'éteindre, un livre ouvert, une montre. Les vanités des biens terrestres, en fait. Penser à la mort conduit donc à certaines humilités et à un certain détachement. Donc je vous propose, pour illustrer ça, pour revenir à cette tranquillité profonde, un trio magnifique, et vous me l'accorderez, quand il y avait l'histoire du piano, j'avais choisi ce morceau pour la lenteur. Eh bien ce morceau, on va le réécouter, c'est Jeff Hamilton qui joue dans donc, Time Passes On avec Larry Fuller au piano et Lynn Seaton à la contrebasse. Et nous sommes en 1996. Écoutez, c'est encore une pure merveille.
Thank you.
Jeff Hamilton à la batterie, Françoise Cordet, Pierre Monteil, Benjamin Thuot, Georges Pagzinski se joignent à moi pour vous souhaiter, comme il est de rigueur désormais, de bien finir la nuit et de bien commencer la semaine. À lundi prochain, 0h.